France Culture. Les midis de culture. Marie Lavory.
Il dirige et met en scène la grande affabulation, le spectacle de la maîtrise de l'opéra comique. Geoffroy Jourdain et Benjamin Lazare seront mes invités à partir de 13h. Et on commence avec la critique, comme tous les mercredis. On se fait une toile avec le délirant Remus, Nuit blanche au sommet de Guy Madin, Galen Johnson, Evan Johnson. Et puis, L'effacement, c'est le deuxième long métrage du réalisateur algérien Karim Moussaoui. Vous écoutez les Midis de Culture, recevez nos salutations les meilleures. Et pour débattre autour de la table, aujourd'hui, Raphaël Pirer, critique de cinéma, notamment pour AOC.
Bonjour Marie.
Philippe Azoury, journaliste, critique et auteur. Bonjour.
Bonjour Marie.
Et bienvenue à tous les deux. Attention, casting improbable. Visez plutôt Cate Blanchett, Denis Ménochet, Charles Dance et Alicia Vikander, entre autres. Et l'histoire l'est tout autant, improbable, du moins pour l'instant. Les chefs d'État des 7 pays membres du G7 sont réunis en sommet en Allemagne. Le décor est bucolique, la rencontre flirte déjà avec l'absurde et le ridicule, et tout ça va vite virer au cauchemar à la nuit tombée, avec notamment l'apparition de zombies exhibitionnistes. Voilà le délire auquel nous convie le film Remus, Nuit blanche au sommet, présenté hors compétition à Cannes l'année dernière. Il sort tout droit de l'imagination que l'on sait foisonnante du réalisateur canadien Guy Madin et de ses deux co-réalisateurs venus eux aussi de Winnipeg, Galen Johnson et Evan Johnson. On commence avec un avis rapide, Raphaël Pirer.
J'ai beaucoup aimé, moi, la façon dont le film prend la farce très au sérieux. Mmh. On part d'une situation très concrète. Il s'agit pour ces dirigeants du G7 d'écrire d'une voix commune une déclaration sur une crise mondiale dont on ne sait pas grand-chose. Et les trois scénaristes, les trois réalisateurs ont un goût du pastiche, de la langue, de faire dévier comme ça ce sujet très sérieux vers quelque chose de très comique. Et ensuite, ils vont prendre beaucoup de plaisir à faire un jeu de massacre et cette grande théâtralité de la politique, elle a criblé de boue en faisant intervenir les zombies. Et j'ai trouvé le basculement de genre très réussi aussi.
Philippe Azoury.
Je suis assez d'accord avec Raphaël. Non, on s'en parlait un peu comme ça juste avant de
prendre l'antenne. C'est interdit de dire ça.
Non, on parlait pas du film. On parlait ici du fait qu'on était le mercredi 7 mai dans une semaine, c'est Cannes. En général, chez les distributeurs, on place plutôt des films qui sont un peu, qui vont quasiment se périmer parce qu'à partir de la semaine prochaine, on a les yeux rivés vers le deuxième semestre 2025-2026. C'est très étonnant ce qui se passe cette année, que ce soit la semaine dernière avec le Cronenberg, ou là, parce qu'on a des films qui sont finalement, qui sont pas des films de grands élans comme ça, d'amour, parce que ce sont des films qui sont exigeants, ce sera pareil, la même chose avec Karim Moussaoui tout à l'heure, ce sont des films qui demandent aux spectateurs d'accepter une certaine ingratitude avant d'arriver à toucher à quelque chose qui est vraiment profondément très intéressant. C'est des films très très intéressants pour les critiques, pour le spectateur qui accepte l'aventure, pour des cinéastes qui prennent des risques. Mmh. Et je trouve qu'on est sur une semaine qui est très très étrange comme ça pour un 7 mai. Donc oui, grand...
Le film était présenté à Cannes l'an dernier.
L'an dernier, voilà, donc il y a un côté périmé, avant que ce soit périmé, alors qu'en fait le film est passionnant.
On va écouter parler. Tout de suite la bande-annonce de Remus, Nuit blanche au sommet.
Look at us. The esteemed leaders of each of these great nations gathered here. America, Germany, Italy, the United Kingdom, Japan, Canada, and the Republic of France. We are the G7. We have many important things to discuss.
Women.
Global warming.
Minorities.
Private sector.
I dress up like Mussolini at a costume party.
Yes, well, it should be quite complicated.
Strange, I haven't seen anyone for a while.
Look, what happened?
I believe we are in a crisis.
Well, we already knew that. Always a crisis.
So, we have been abandoned.
Cut off, alone.
What is that?
Voilà, Remus, Nuit blanche au sommet de Guy Madin, Galen Johnson et Evan Johnson, Raphaël Pirer. C'est une véritable farce, mais qui nous surprend tout de même.
Oui, elle est très surprenante déjà parce que on ne cesse de changer de registre et de genre et de code de cinéma. Et donc on commence avec cette farce. Là où je disais que les cinéastes prennent vraiment leur sujet au sérieux, c'est qu'ils ont visionné énormément de vidéos YouTube sur le G7 et ils ont beaucoup observé la façon de se tenir, la façon de se murmurer à l'oreille qu'ont les dirigeants. Sauf que dans les vidéos officielles, on n'entend pas ce qu'ils se disent habituellement. Et donc là, ils ont pris un grand plaisir à imaginer ce qui se racontait. Et ce qui se raconte, c'est d'une part un discours politique qui est très verbeux. Et puis les moments où ces dirigeants disent vraiment ce qu'ils pensent, souvent ils dérapent un petit peu dans leurs propos. Et puis, par ailleurs, ces dirigeants, on dirait, à un moment, il y en a un qui dit « on n'est pas dans un camp de vacances », mais on dirait quand même qu'ils sont en colo, ils sont dans un très beau parc, ils prennent beaucoup de plaisir à être ensemble parce qu'ils sont très intelligents, ils sont très séduisants aussi. Et donc, il y a un côté un peu teen movie où ils ont envie de se séduire, ils ont envie de faire l'amour, ils ont envie de profiter de la vie aussi, ces dirigeants. Donc, la satire, elle vient de là, à la fois de jouer avec cette novlangue et de s'amuser à faire un discours très complexe qui est très creux et très vide, et aussi de faire dire à ses dirigeants des choses très intimes sur leurs affects, quoi.
Philippe Azoury, est-ce qu'on reconnaît Guy Madin ?
Non, et d'ailleurs, c'est très intriguant quand on...
Ce réalisateur canadien de Winnipeg...
Quand on entend la bande-annonce qui ressemble à celle d'un film de super-héros, ce serait les sept fantastiques, mais là, c'est les sept impuissants. Enfin, ils sont de l'impuissance littérale. Et alors, j'aime bien parce qu'ils ont comme dans la vie, enfin, chacun une caractéristique. On a l'allemande, un peu comme ça, solide, docte, l'italien qui sert à rien, le français qui est complètement rêveur, le canadien séducteur et séduisant, l'anglaise libérale, le japonais lointain, pointillé comme ça, l'américain qui sucre les fraises. Enfin, ils sont tous assez comme ça, ils tiennent sur un trait. Et c'est vrai que quand on commence à découvrir le film, moi, quand on m'a dit tiens, on va voir le Guy Madin pour l'émission. Pour moi, Guy Madin, depuis les années 80, le début des années 90, la fin des années 80, c'est quelqu'un qui a, depuis Tales of the Gimli Hospital et Les Lâches s'agenouillent, Winnipeg, mon amour, c'est quelqu'un qui a retravaillé à l'intérieur du cinéma contemporain ce qui subsistait du cinéma muet. C'est quelqu'un qui faisait vraiment un travail complètement à part, même à part de notre propre monde, qui vivait dans un monde comme ça différent, qui était un monde de zombies d'une certaine façon. Mais là, ce qui est très très étonnant, c'est, je pense que c'est ces deux co-réalisateurs, là, Evan et Galen Johnson. Alors je sais pas, c'est un couple, c'est des frères.
C'est des frères,
hein, c'est ça. Mmh. C'est vraiment, on dirait qu'ils lui tendent la main pour lui dire viens avec nous et tu vas voir, on va te montrer des zombies encore plus ou des gens encore plus terrifiants que ceux qui sont perdus dans les limbes de la fin du 19e siècle. Le début du 20e, qui est le cinéma muet, tu vas voir vraiment 2025, 2024, 2025. Et effectivement, c'est la terreur. Ça, c'est totalement terrorisant. Bon, d'abord, enfin, on voit qu'ils sont impuissants. Raphaël disait, ils sont tous très intelligents. Enfin, ils sont tous aussi très, très cons. Ils sont d'une très, très grande vulgarité.
Les deux ne sont pas incompatibles.
Voilà. Ils sont à peu près incapables d'avoir une idée sur ce qui arrive au monde, mais il faut qu'ils pondent des communiqués, enfin, des déclarations. Enfin, c'est plus des communiqués, mais communiqués sur le vide. Et d'ailleurs, une fois qu'ils sont dépourvus de communicants qui les entourent, ils savent vraiment plus quoi dire, ils savent même pas faire une rédaction, enfin ils s'y mettent à quatre. Il y en a une qui est un peu plus efficace que les autres, c'est l'anglaise, mais quand même le reste, ils galèrent comme pas permis. Et ils ne travaillent que sur un appauvrissement total de la langue et des mots valises. Et ça, c'est quand même vraiment très intéressant parce que là-dessus, il rejoint un livre dont on avait parlé ici, il y a peut-être un mois de ça, qui est Le Tout de Dave Eggers. Et on voit vraiment comment la question du langage, et on le voit avec ce qui se passe avec Trump aujourd'hui, comment il s'attaque au langage aussi, enfin en premier. Comment finalement on s'appuie non plus sur des formulations, mais on s'appuie sur des mots qui sont des mots valises ou des hashtags, littéralement hashtag féminisme, hashtag inclusivité, etc. On peut les déplier. Et le film, on voit, montre des dirigeants qui sont perdus face à l'extérieur, à l'altérité. Il y en a pas. L'altérité, c'est des zombies pris à pic, en plus, complètement, qui font que se branler.
Et ce qui est un peu la même chose que parler pour ne rien dire.
Et ils s'adressent à eux dans un parc vide quand ils arrivent à s'adresser à eux après Moult Aventure. C'est assez gonflé.
Et dans la forme, quand je disais, est-ce qu'on reconnaît Guy Madin? Parce que Guy Madin, c'est aussi une forme, c'est un noir et blanc avec une texture très importante. Voilà. Là, c'est pas un film en noir et blanc.
Non, pas du tout. Il y a même beaucoup de couleurs. Et puis,
deux peintres.
Pardon ?
Mais deux peintres.
Oui, 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 absolument. Ça commence un peu dans une image très éthérée, très veloutée, qui fait un peu telenovela. Et y a ce côté aussi dans le début qui est assez amusant, qui est qu'il y a un décalage de post-synchronisation entre les corps et ce qu'ils racontent. Et donc, on a l'impression que vraiment ces discours flottent par-dessus les corps. Et donc, ça reprend à l'esthétique de la telenovela, mais en nous racontant quelque chose de politique aussi. Et puis, quand la nuit tombe, là, on bascule du côté de l'horreur et aussi du côté du merveilleux. Et là, ils sont au bord d'une forêt. Les hommes politiques doivent aller dans cette forêt et elle est complètement violine, pourpre. Et c'est assez merveilleux. Il y a des images comme ça qui surgissent auxquelles on ne s'attend pas du tout. C'est un film qui ne cesse de bifurquer dans des ambiances et des ambiances visuelles et d'émotions aussi qui sont très, très différentes. Et pour aller vers quelque chose de la collapsologie où, dans la dernière partie, ils se retrouvent dans le château dont ils étaient éloignés. Ils arrivent finalement à le regagner et donc on est dans une vision apocalyptique aussi.
C'est un film sans espoir sur... Vous disiez c'est de l'horreur, le 2025.
Je pense que... Oui, c'est possible que ce soit un film sans espoir, mais non sans rire. Ce qui est quand même pas mal. Non, je repensais à la question que vous posiez justement à Raphaël sur la question de est-ce qu'on reconnaît sa patte, mais il y a presque une articulation qui est étrange, c'est qu'effectivement, ça, Raphaël disait, il y a des registres permanents, on voit l'intervention de Gaïmanine, c'est-à-dire les moments où c'est très très très, c'est très bien filmé, c'est-à-dire filmé tout à coup comme un peintre romantique allemand, et comment progressivement à trois, parce que ça, je pense qu'il n'y a pas affrontement, je pense qu'ils ont vraiment fait le film ensemble, à trois, ils vont éclabousser debout cette très belle image, nous faire nous-mêmes barboter dans vraiment le pire du pire du moment, et arriver à dégueulasser réellement le truc. Ce qui est un risque énorme, parce que Gaïmadine est un cinéaste finalement très sophistiqué, dont on peut dire à la fois qu'il allait vers un cinéma qui racontait des pulsions, mais il y avait quand même toujours simple fait de sa très très grande capacité à faire des plans absolument sublimes, il y avait toujours quelque chose du très très bon goût. Mmh. Et là, c'est vraiment ce territoire-là qui a abandonné pour aller au contraire vers Raphaël disait la satire, c'est vraiment vers quelque chose qui est totalement déséquilibré, vers quelque chose qui n'est plus de l'ordre du bon goût, qui touche à l'ingratitude, mais c'est pas du tout un ratage, c'est vraiment au sens, c'est exactement le film que lui voulait, enfin que eux trois voulaient faire. Mmh. Là-dessus, le film est maîtrisé totalement, y compris dans son risque d'aller vers de l'ingrat, vers du ridicule.
Mais il se situe où l'ingrat, alors c'est le ridicule, c'est ça?
Bah dans le film, on va vers le film de zombies, le film de genre.
Le vrai, quoi.
Et c'est des zombies vraiment dégoulinants, quoi.
Ouais, c'est dégueu. Ouais,
il y en a un qui est déterré d'abord par un archéologue, alors on s'attend à voir un beau squelette, comme les corps qu'on peut connaître de Pompéi, par exemple, et ils sont suintants, ils dégoulinent de fluides vraiment visqueux.
C'est fluide, oui.
C'est ça qui est très sale dans le film, c'est l'intervention des zombies qui sont pris de très sautements masturbatoires sans arrêt. Enfin, vraiment, ils apportent quelque chose, une boue qui vient éclabousser les hommes politiques. Et c'est des zombies de l'âge de fer, donc du moment de l'invention de la démocratie. En fait, il y a une image très forte qui est que les sept présidents du G7 posent devant l'un des corps qui a été exhumé avec des pelles à la main. Et c'est vraiment le symbole que ce sont les fossoyeurs de la démocratie. Il y a vraiment cette idée comme ça qui se creuse au fil du film. Donc oui, c'est un film qui n'a pas beaucoup d'espoir.
Un cadavre, quoi.
Ouais.
Ça me fait penser un peu, moi, à dans le look-up, pas du tout dans ce que ça raconte, mais dans le côté jusqu'au boutiste et farcesque sur notre époque, quoi.
Oui, il y a quelque chose comme ça, oui.
Mais qui croiserait l'ange exterminateur de Buñuel.
Oui, oui, il y a quelque chose de Buñuel dans le film.
Ça crée un ouvrage assez...
Et ça peut faire penser à Bertrand Mandicot aussi, dans la façon d'éclairer la forêt, de changer de lumière, d'être dans quelque chose de très artificiel aussi. Et là, on retrouve quelque chose de gagné.
D'être à la fois dans quelque chose de très travaillé et qui, en même temps, va vers le bis, ne s'occupe jamais que du très bon goût, qui surtout squeeze la question du très bon goût, quoi.
Rumours, Nuit blanche au sommet de Gaïmadine, Galen et Ivan Johnson, avec Kate Blanchett, je l'ai dit, Denis Ménochet, Alicia Vikander, entre autres.
12h-13h30, les midis de culture. Marie Laborie.
Et on enchaîne avec L'effacement de Karim Moussaoui. Le réalisateur algérien signe là un deuxième film qui était très attendu, tant ses courts et moyens et son premier long métrage avaient été remarqués en festival notamment. Après En attendant les hirondelles, sélectionné dans la section Un certain regard en 2017, Moussaoui continue d'ausculter la jeunesse algérienne, confrontée à des choix où elle a toujours beaucoup à perdre. Le film suit donc Reda, incarné par Sami Lechea. Reda, qui est en fait un jeune bourgeois, un jeune héritier qui vit sous la coupe de son patron de père, mais tout bascule justement quand ce père tout puissant meurt. On commence avec un avis rapide, Philippe Azoury.
Oui, je trouve que c'est un second long métrage très très étrange, avec un charme assez tenace, et qui prend le risque total de coller à son personnage. Or, ce personnage est un personnage ingrat, pas forcément très sympathique, mais il est central, et il charrie avec lui des questions qui sont essentielles, notamment qu'est-ce qu'un père, qu'est-ce qu'un fils, qu'est-ce qu'un homme, enfin, des choses avec lesquelles on fait, mais il le fait du côté de... Oui, d'un côté qu'on ne regarde pas habituellement au cinéma.
Raphaël Pirard.
Oui, je suis tout à fait d'accord avec Philippe. C'est un film qui fait le récit d'un apprentissage raté et d'un jeune homme qui passe à côté de sa vie. Et le film est assez loin de son personnage et de ses affects, ce qui fait qu'on reste un peu à l'écart de la tragédie qu'il vit. Donc il y a un écart comme ça entre l'abîme qu'il est en train de traverser et le fait que nous spectateurs, on est un peu à l'écart parce que le pari vraiment très difficile que se donne Karim Moussaoui, c'est de raconter cet apprentissage raté du point de vue de l'effacement. Or, montrer un effacement, c'est pas évident.
Oui, comment on montre un effacement? Alors, vous disiez, Philippe Azoury, qu'il collait à un personnage qui n'était pas très aimable et que ça, c'était un peu dangereux pour un film.
Oui, parce qu'en général, on laisse quelque chose de la séduction. La séduction, en plus, elle est posée d'emblée parce qu'ils sont deux frères face à un père qui est patriarcal jusqu'à la caricature. Enfin, voilà. Et il y a, comme dans la Bible, il y a le bon fils. C'est lui, c'est Reda, et l'ennuyeux, le sage, le dévoué, le soumis Reda. Et puis il y a le fils prodige, Faisal, qui est joué par Hirschender, qui est DJ, qui est super sexy, qui est séduisant,
et qui au bout de deux
séquences dit moi je lâche l'affaire, je pars à Paris.
Philippe, je vous coupe deux secondes, j'ai oublié de lancer la bande annonce.
Mais oui.
Et après
vrai.
Je vous redonne la parole.
D'accord.
J'ai besoin de toi là-bas. Il y a beaucoup de gens qui veulent ma peau. Tu verras demain te présenter au nouveau responsable.
J'ai une vraie admiration pour votre père.
Merci.
Il va te proposer un poste. Tu seras mes yeux et mes oreilles.
Pourquoi tu te laisses faire comme ça? T'es pas son esclave.
Il veut notre bien, Adam Hagen.
Qu'est-ce qui se passe?
On dit que si je voulais garder mon poste, il fallait que je fasse mon service militaire.
Armée!
Ce qu'ils veulent surtout, c'est m'atteindre.
ما لا على حسب ما يقولوا انت يا مرفع
واش يخدم بابا شدو
البركة في راسكم بابا كنت انسان محترم.
L'effacement de Karim Moussaoui. Philippe Azoury, vous expliquiez donc qu'il s'attache à ce personnage Reda, qui est celui qui reste et qui n'est pas celui qui est a priori le plus intéressant pour un film, on va dire.
Les deux frères, le plus magnétique, le plus sexy, c'est celui qui s'en va au bout de deux séquences. Et on reste avec celui qu'on a l'habitude de ne pas regarder, c'est-à-dire celui qui dit oui à tout, celui qui en crève, celui qui étouffe, celui qui est triste, celui qui est ennuyeux, celui qui désire mal. Mmh. Et on se demande bien, nous, comme spectateurs, ce qu'on va faire avec ça. Enfin, amène-nous à Paris. Mais non, on est là, on n'est pas à Paris. Et on est en Algérie, enfin, même si le film a été tourné, on s'en parlait juste avant, en Tunisie et en partie à Marseille. Et c'est là que ça devient intéressant parce que c'est là que ça pose des questions précisément. Donc, je disais, qu'est-ce qu'un homme? Qu'est-ce qu'un fils? Qu'est-ce qu'un père? Bon, le père, on voit très vite une société qui en crève de cet enlisement-là indiscutable, qu'on ne peut s'y confronter qu'en s'en allant. Ceux qui restent, ils se posent la question. Et on voit comment ce personnage de Reda arrive à la moitié du film. C'est un film qui est divisé en trois parties quasi exactes, c'est quasi métronymique, ça a été millimétré à chaque fois. Voilà. Trois parties sont divisées. Comment, progressivement, il avance dans des questions, il fait des erreurs. Ces erreurs sont souvent monstrueuses, c'est-à-dire qu'il est... C'est très difficile d'en parler sans spoiler le film, mais bon, bon, disons qu'à un moment, il a un acte de violence inexcusable envers celle qui va devenir sa compagne, alors qu'on est en train de commencer à apprécier ce personnage-là, parce qu'on comprend qu'il est complexe et qu'il est très très bousillé par ce qui lui arrive. Mais pourtant, il va falloir le suivre. Et il va même falloir le suivre dans cette espèce de libération que cet acte provoque en lui. C'est un film qui prend des risques tout le temps de ce côté-là.
Mmh. Raphaël Pirard.
Moi, ce que j'aime beaucoup dans le film, c'est le début, les premières scènes et la façon dont le film nous présente ce personnage qui d'abord regarde une interview de son père qui a participé à la reconstruction de l'Algérie après l'indépendance et qui fait partie d'une génération qui est adulée en Algérie. Et donc, le film nous met d'emblée dans cette idée qu'il est face à une image qui est trop grande et qu'il n'arrivera jamais à se confronter à cette image-là. Et ensuite, quand on le voit arriver chez lui, il fait un footing et puis son père lui parle assez mal et puis l'envoie faire des tâches dans la maison, des corvées, et donc on a l'impression que c'est un domestique et on fait fausse route comme ça dans le premier contact qu'on a avec lui. Et c'est finalement ce que raconte le film, c'est que c'est impossible d'être un fils dans cette société-là parce que la génération précédente, celle qui est glorifiée d'avoir reconstruit le pays, a pris toute la place et que c'est impossible d'exister par rapport à ce type de personnage. Donc le film met dos à dos sans arrêt des questions de domination entre les pères et les fils, les bourgeois et les populations plus modestes. Il y a un rapport avec la domestique aussi, entre les hommes et les femmes. Voilà, donc c'est des rapports de domination qui se rejouent perpétuellement dans le film et qui effectivement nous racontent quelque chose de très déplaisant sur cette société algérienne.
Et vous disiez que le film montre cette béance, cette chute de ce jeune homme-là, tout en vous tenant à distance, c'est par la forme que ça se produit.
Est-ce que c'est par la forme? C'est que, en fait, le film est adapté
roman
de Samir Toumi, qui est paru en 2016, qui s'appelle L'effacement aussi, et dans lequel on était beaucoup dans l'introspection du personnage. C'était un roman très psychologique où le personnage s'exprimait beaucoup sur ce qu'il ressentait. Et là, le choix du film, c'est de passer par un personnage taiseux. Et on a très peu accès à ses affects, à sa psychologie. Donc il y a quelque chose d'un peu bancal dans le film qui est de faire le portrait psychologique de quelqu'un qui ne parle jamais. Mmh. Et donc ça impose comme ça de deviner. Et ça fonctionne pas à tous les instants. En tout cas, comme le film prend des coup de volant très brusque dans la trajectoire que suit ce personnage.
Ouais, il se casse
le fou. On le connaît pas très bien au début et quand il change, ben on sait pas exactement comment il change, quoi.
Il change même physiquement. Enfin,
l'acteur se
métamorphose au fur et à mesure du film de façon assez impressionnante. Je suis pas certain. Enfin, je partage pas totalement avec Raphaël la distance. Je trouve au contraire que le film se met en miroir de son personnage. D'abord parce qu'il l'accompagne, le personnage est sur tous les plans, même si nous, spectateurs, on a plutôt un segment d'avance, c'est-à-dire qu'on sait que sa vie est insupportable. Quand lui ne se pose pas encore la question, il la prend comme il se doit, c'est-à-dire comme un héritage, comme un don ou une dot. Mais ce qui est troublant, c'est que je pense que le film se pose aussi des questions de cinéaste en tant que... Enfin, ce qu'on appelle les cinémas du Sud et toutes ces catégories avec lesquelles il faut faire très très gaffe parce qu'il y a, voilà, bon, il y a un regard comme ça beaucoup ethnocentré. Mais c'est vrai que comment, par exemple, pour un cinéaste comme Karim Moussaoui, comment exister à la fois dans un territoire qui n'est pas le grand cinéma d'auteur français, on va dire, ou franco-belge, ou suisse, européen. Enfin, comment on existe en dehors de ça, sans être dans une caricature exotique du cinéma, des cinémas du Sud. Et donc, en étant aussi un peu écrasé par les grands frères sexy, que sont un peu le cinéma iranien, le cinéma libanais. Enfin, c'est là vraiment des gens qui ont une avance incroyable sur la forme, qui ont toujours un discours très très rodé, qui arrivent à y mettre de l'humour. Et comment lui peut trouver un territoire là-dedans qui ne soit pas super symbolique, super appuyé. Alors, on pourra toujours dire qu'effectivement, le corps du personnage ici est presque symbolisant à tous les endroits. Il n'a pas beaucoup le choix. Il n'y a pas tant de films algériens par an et qui veulent en plus charrier toute l'histoire, mais il arrive à s'interroger justement, et toute la quête de Reda, c'est de trouver un territoire à lui. Même s'il doit faire des erreurs, même s'il doit se tirer des balles dans le pied sans arrêt. Et j'ai l'impression qu'en miroir, Karim Moussaoui se pose aussi ces questions-là, d'un point de vue formel.
Oui, c'est un territoire quand même, l'Algérie, où il se passe des choses ces dernières années. Oui. Il y a notamment le cinéaste Hassan Ferrani qui fait du documentaire, lui, mais qui raconte vraiment l'histoire de son pays. Et d'ailleurs, Karim Moussaoui, il a fait un premier long métrage qui était En attendant les hirondelles, mais aussi un moyen métrage Les jours d'avant en 2013 qui revenait sur les années 90, les années de plomb en Algérie. Donc cette question du rapport au passé, elle est très importante pour lui. Comment est-ce qu'on vit aujourd'hui en se confrontant au passé? Et il y a un élément qui est important aussi pour comprendre la fabrication du film, c'est qu'au moment du Covid, l'État algérien s'est retiré du financement du cinéma national. Et donc le film a été et une coproduction française, tunisienne et allemande, et donc a été tournée à l'étranger. Donc il y a quelque chose de fuyant aussi dans cette histoire-là de tournage, de comment est-ce qu'on fait pour documenter son pays, pour créer des images de son pays aujourd'hui.
Hors territoire.
Voilà, alors qu'on ne peut pas filmer sur son territoire et qu'on doit aller filmer dans le désert tunisien. Mmh. Et le film ne cesse de balader aussi son personnage d'un décor à un autre. Et c'est ça qui le fait changer aussi, c'est qu'il est dans des intérieurs de grandes sociétés pétrolières, et puis d'un coup, il abandonne tout et il part dans le désert. Donc c'est un personnage qui ne cesse de se déterritorialiser.
Et dans lequel il ne se retrouve jamais. Donc c'est finalement à force de déterritorialisation qu'il arrive à constituer quelque chose un peu d'une identité propre.
Et puis il y a l'apparition, enfin l'intrusion du fantastique à petite dose, mais cette histoire de miroir sur laquelle vous êtes revenu souvent, vous utilisez le mot miroir trois fois, il va en parler.
Oui, c'est vrai. Non, c'est vrai à quel moment on arrive à se regarder et non pas ne pas se reconnaître, mais être complètement effacé du plan, c'est-à-dire n'être nulle part. On n'a aucune coordonnée qui ne correspond, ni historique. L'histoire s'est jouée avant nous, ni dans le contemporain. Le contemporain, ça se joue sans nous. Et comment, finalement, on arrive à s'inscrire dans l'image? Raphaël disait, ça commence par un fils qui regarde une vidéo de son père. Enfin, je veux dire, le stade du miroir le plus total. Identification totale, mais cette identification, elle peut plus marcher. Elle marche plus. Dans un monde globalisé, elle peut plus marcher. Mmh. C'est ça qui est vraiment intéressant. Il prend vraiment ce corps, qui est le corps qu'on n'interroge jamais, quoi. Vraiment celui qui ferme sa gueule, dans un monde globalisé où il sait quand même beaucoup de choses, et où on voit bien qu'il a plus du tout sa place, et que sa place serait dans l'effacement, ou dans un territoire à inventer, quoi. Mmh.
Raphaël Pierre nous a parlé de son regard sur la forme du film. Vous, Philippe Azoury, en quelques mots.
La forme elle-même.
La forme, ouais.
Bah, c'est là où je trouve que j'en ai déjà un peu parlé comme ça en pointillé. Cette envie imparfaite comme ça de se coller à un personnage auquel on ne peut pas totalement adhérer. Lui demande de tenir une très bonne distance, d'avoir une caméra. Le film est très 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 solide. Enfin, je veux dire, il est pas trop écrit. Il est très écrit. C'est-à-dire, il sait exactement où il va. Il sait où il nous emmène. Il cherche lui aussi continuellement. Alors, on n'est pas bluffé au début par le découpage. On n'est pas bluffé par le style. Mais moi, je suis bluffé par la patience du film. La patience à arriver à trouver un endroit où quelque chose se met à respirer. Non pas que le film soit étouffant, mais il faut accorder cette patience là au film, de nous emmener pendant une heure dans un territoire dans lequel il peut s'enliser pour enfin finalement pas exister. C'est très, très aventureux.
L'effacement de Karim Moussaoui, Philippe Azoury, Raphaël Pirer, merci beaucoup d'être venu dans les Midis pour parler cinéma aujourd'hui. Toutes les références sont évidemment sur la page des Midis de Culture.